Et nous sommes maintenant avec Laurent Haugue. Laurent Haugue, bonjour.
Bonjour.
Nous voulons parler de l'impact des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne et sur de nombreux secteurs tels la presse, la radio qui nous intéresse bien sûr, la télévision. Laurent Haugue, vous avez créé une société de conseil qui accompagne les entreprises dans la compréhension de la communication en réseau, ce qui ne semble pas si évident, même aujourd'hui si on en parle tout le temps. Et vous avez créé LIFT l'année dernière. C'est une réunion, peut-être pour le commun des mortels, comme moi et beaucoup d'autres, on pourrait penser au départ que c'est une réunion de blogueurs, sans aller plus loin que le chat, mais en réalité c'est un outil que vous qualifiez l'outil le plus puissant du monde avec le courrier électronique. Est-ce qu'il y a une révolution qui est déjà effectuée dans le mode de communication? Je parle bien des entreprises, mais peut-être que pour vous cette communication entre les entreprises et aussi le teenager qui tient son blog relève du même principe.
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est vrai qu'il y a énormément de bouleversements qui arrivent notamment par le biais des nouvelles technologies. Le blog est une de ces technologies dont on parle beaucoup en ce moment. C'est un peu celle qui retient le plus d'attention. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et que ça a changé profondément la façon dont on communique, que ce soit dans la vie privée. Par exemple, quand on parle de MySpace, dont vous avez probablement entendu parler, qui est ce site qui a des centaines, qui a plus de 100 millions d'utilisateurs maintenant aux États-Unis et que les ados utilisent pour socialiser. Donc là, on est complètement en dehors du monde professionnel, mais il y a aussi des grands changements dans le monde du marketing, le monde de la communication d'entreprise, la communication interne aussi. C'est vrai qu'en fait, les technologies permettent un peu à tout le monde de participer, et donc on est en train d'entrer dans une ère qui est beaucoup plus interactive, où tout le monde a une voix, tout le monde peut s'exprimer, et donc ça change pas mal la donne. D'un monde où il y a 10 ans, une grande entreprise pouvait encore faire une publicité globale et mondiale et puis espérer qu'elle convienne à tout le monde. Maintenant, c'est plus du tout possible, quoi. Les échanges vont dans les deux sens. Quand on est une entreprise, qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui parlent de nous et qui ne disent pas forcément des choses extrêmement positives, etc. Donc, la vraie révolution, si vous voulez, c'est la vraie tendance un peu de long terme, c'est la micro-publication. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui peut s'exprimer via les nouveaux médias et peut en plus toucher une audience qui est extrêmement large. Donc moi, je peux démarrer un blog et écrire un peu mes petites histoires ou parler de mon métier ou quoi que ce soit, et il y a des blogs qui sont lus par des centaines de milliers de personnes. Je peux moi aussi enregistrer ma petite émission de radio, la mettre en téléchargement et puis avoir des centaines de milliers de personnes qui...
Ça, c'est la pêche à la ligne quand même. C'est 6 milliards de blogs.
Non, alors il n'y a pas... Oui, il y a beaucoup moins... Disons qu'il y a un espèce d'effet d'autorégulation, en fait. Il y a en effet énormément de blogs qui sont pas pertinents, mais c'est comme si vous allez dans un kiosque, il y a combien de pourcentage des magazines qui vous intéressent? Il y en a peut-être 5%, ou peut-être dans le meilleur des cas 10, les blogs c'est pareil, il y en a qui sont pertinents, qui sont dans votre domaine, il y en a plein qui vous intéressent pas. Maintenant c'est un cliché un peu de dire qu'il y a rien d'intéressant dans les blogs, il y a des gens extraordinaires qui bloguent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un monde qui est plat, donc tout le monde est à égalité. Si vous avez du talent, si vous dites des choses qui sont intéressantes, vous allez sortir du lot.
Alors c'est le cas, par exemple, de Robert Scoble, que vous aviez invité l'année dernière, qui était le créateur d'un blog qui mettait donc en ligne des comparaisons sur des produits informatiques, c'est juste?
Alors c'est pas vraiment ça, c'est que Robert Scoble avait acquis une notoriété il comparait pas les choses, il donnait son avis sur la technologie, et c'est quelqu'un qui avait un certain talent pour faire ça, et qu'il faisait avec beaucoup d'objectivité. Donc il était capable de critiquer le produit d'une marque et le lendemain d'encenser le produit de la même marque. Parce qu'objectivement, une marque est capable de faire un bon et un mauvais produit.
Mais grâce à son succès...
Il a acquis une certaine notoriété grâce à son objectivité, grâce à sa transparence. Et puis c'est quelqu'un qui ensuite a acquis une notoriété et donc une influence vraiment grandissante. Il a été travailler chez Microsoft et maintenant il vient de rejoindre une société justement qui fait du vidéo blog, c'est-à-dire que au lieu de travailler par l'écrit, maintenant il travaille avec une caméra, puis il va interviewer un peu des personnalités du monde des technologies, et typiquement quelque chose qui est en train un peu de bouleverser la télévision.
Alors vous disiez aussi l'an passé que vous aviez pu créer LIFT grâce au blog, justement, puisque ça vous permettait d'économiser énormément sur les frais et de pouvoir démarrer une petite entreprise simplement grâce à un outil électronique.
Exactement, c'est un des autres grands changements qui est en train un peu de bouleverser beaucoup de choses, c'est le fait que ces technologies sont extrêmement accessibles, et en termes de prix comme en termes de avant, il fallait d'énormes connaissances techniques pour avoir un blog, etc. Maintenant, c'est plus du tout vrai, par exemple. Donc, oui, le blog a été un outil qu'on a utilisé. C'est pas le seul. L'outil principal, ça a été l'email, quand même. Ça reste ce qui nous a permis de contacter des gens dans une vingtaine de pays et de monter ça de façon vraiment avec un budget extrêmement bas. Et le blog nous a permis de raconter l'histoire de la conférence, de comment on l'a montée, de poser aussi des questions aux gens. Des fois, ça m'est arrivé de leur dire, par exemple, on avait pensé à faire une zone que les quatre premiers rangs de la conférence, les gens ne puissent pas venir avec leur laptop, parce que dans beaucoup de conférences, les gens viennent avec leur laptop, puis ils finissent par lire leur mail, et le speaker qui est en train de, l'intervenant qui est en train de parler, a l'impression que personne n'écoute. Mm-hmm. Donc, on avait lancé cette idée sur le blog, et puis on a eu des commentaires, on a une dizaine de personnes qui sont venues, qui ont dit on trouve ça bien, on trouve que c'est pas bien, etc. Il y a eu un débat qui s'est engagé. Et c'est vrai qu'on a utilisé cet outil pour un petit peu, créer la conférence, et c'est un outil qui a pas vraiment de frontières, donc c'est assez intéressant. C'est vrai que ça nous a permis de toucher des gens dans tous les pays du monde.
Alors, tous ces outils ont véritablement bouleversé le mode de communication. Nous parlions tout à l'heure de la radio. Il semblerait que le mode de consommation de la radio et de la télévision, puisque vous avez parlé des vidéos blogs, je crois, bouleverse totalement le mode de communication. De la même manière, vous avez cité tout à l'heure que l'on peut créer sa petite radio sur le web et peut-être concurrencer les plus grandes. Sans aucun problème.
Ouais. Là, il y a quelque chose d'extrêmement spectaculaire qui est en train de se passer. Vous avez peut-être entendu parler de YouTube. Qui est, après MySpace, maintenant on commence à parler beaucoup de YouTube. C'est un site qui permet à tout un chacun d'envoyer une vidéo et ensuite de regarder les vidéos des autres. C'est utilisé, pareil, par des millions et des millions de personnes. Et c'est en train de sérieusement remettre en question le modèle économique des télévisions établies, qui, elles, imposent aux gens leur programme, imposent aux gens leur horaire. Et de plus en plus, la technologie permet de se libérer de ça. Donc il y a non seulement le côté technique, c'est-à-dire que moi je peux aller voir à la demande les choses, mais il y a aussi tout un côté éditorial. C'est vrai que on l'a vu un peu plus tôt, par exemple dans le monde de la musique, ce que produit les majors, c'est peut-être 0,1% de ce qui est créé. Exactement. Et c'est pas forcément le 0,1% de la meilleure qualité, parce qu'ils ont des impératifs commerciaux, etc. Moi, je sors Britney Spears, je te contresors Christina Aguilera, parce que c'est la mode, etc. Donc voilà, tout ça fait que les technologies ont permis aux gens qui ont de nouveau du talent et qui ont des choses à dire, que ce soit via une vidéo, que ce soit via de la musique, de le faire et d'atteindre une audience. Il n'est pas rare de voir des vidéos qui ont été vues par des millions de personnes sur YouTube, qui ont eu plus d'impact probablement que beaucoup de chaînes de télévision. Il n'est pas rare aussi de voir maintenant des artistes qui se créent uniquement via MySpace. Il y a le poster boy de ça, c'est Gnarls Barclay, que tout le monde doit connaître un peu le nom, qui a été repéré sur MySpace parce qu'il avait mis sa musique sur MySpace, puis il y avait énormément de gens qui l'a trouvé bien, et finalement il a été repéré par un label qui a fini par le signer pour sortir son disque. Mais il y a vraiment un changement fondamental. Il n'y a plus, en anglais ils appellent ça les gatekeepers, c'est les gens qui sont un peu, qui ont la clé de certains médias, qui sont c'est un terme un peu moyenâgeux, comme ça, un peu. C'est les gens qui empêchent, en fait, qui sont des filtres et qui empêchent le talent et la créativité des gens d'arriver sur le marché. Mmh. Avant, on était dans un marché comme ça. Si moi, je voulais diffuser une vidéo, il fallait que j'aille d'abord faire valider mon projet chez TF1 ou à la TSR, etc. Maintenant, c'est plus le cas. Moi, je peux aller directement sur le web et les gens reconnaissent eux-mêmes ce qui les intéresse ou pas.
Il sera également possible de faire payer ceux qui veulent regarder, justement.
C'est déjà possible. Par exemple, un système comme Google Vidéo vous permet d'envoyer une vidéo et de fixer son prix, etc. Pour répondre complètement à votre question, parler de la radio aussi, c'est clair que c'est en effet un des médias qui est en train d'être extrêmement remis en cause, notamment par le podcast. Donc ces gens qui, eux-mêmes, chez eux, s'enregistrent ou enregistrent une interview qu'ils font et la mettent sur leur site. Maintenant, il y a des technologies qui permettent de s'abonner à ça très facilement. Donc moi, je peux... un programme va télécharger automatiquement pour moi le show qu'a fait la personne et le mettre sur mon petit lecteur MP3, donc je vais pouvoir l'écouter quand j'ai envie.
Là, par exemple, l'émission actuelle peut être écoutée, téléchargée sur le site www.genevart.org.
D'accord, je vais faire attention à ce que je dis alors.
Je suppose que vous la retrouverez aussi sur votre blog où tout est... archivé.
Si je dis pas trop de bêtises, ouais. Mais il y a une autre chose qui est en train d'arriver, c'est les radios interactives. Donc il y en a plusieurs. Il y en a la plus connue, c'est Last FM. Il y en a une qui s'appelle Pandora. C'est des sites sur lesquels on va. On dit un peu ce qu'on aime. Et la programmation musicale va être adaptée à nos goûts par un algorithme. Alors c'est un petit peu, on ne sait pas trop comment ça marche. Des fois c'est pas génial, mais des fois c'est vraiment bien. Et du coup, chacun peut avoir sa radio personnalisée. C'est à la demande, etc., gratuitement. Donc c'est quand même des choses assez fondamentales qui sont en train de changer.
Est-ce que dans ce domaine, c'est par exemple cela annonce la disparition des radios formatées et que on se retrouverait plutôt dans un système, pour prendre un cas simple de commercialisation, de supermarché, dans lequel on pourrait choisir différentes émissions que l'on télécharge?
C'est un petit peu ça, mais je pense pas que l'évolution va être aussi manichéenne. Je pense qu'il y aura vraiment des choses qui seront... les deux vont pouvoir coexister. C'est juste qu'il va y avoir un temps d'adaptation, en fait. Donc, les grandes radios vont rester là. Elles ont une fonction à remplir, tout à fait. C'est celle de toucher vraiment les masses, etc. C'est des institutions qui sont pertinentes. Mais elles vont devoir de plus en plus s'adapter au fait que les gens ne sont plus des auditeurs passifs. Et les grands médias, que ce soit les journaux, que ce soit les télévisions, que ce soit les radios, à mon avis, vont de plus en plus devenir des pourvoyeurs de contenu et des gens qui, dont le métier et la valeur ajoutée va être d'analyser, plus que de rapporter les nouvelles, etc.
C'est le problème et la question. Comment trier, classer, comprendre, analyser, répertorier, investiguer, repartager, rediffuser?
Tout à fait, c'est
un problème depuis le Moyen-Âge, avec les Wunderkabinett allemands. Hein,
mais il y a aussi il y avait tout. Peut-être un problème d'âge. Là, vous parliez des grandes radios. Peut-être que l'auditeur captif sera peut-être plus âgé, puisque vous citez sur votre blog, sur votre site, un rapport de l'Ofcom. Peut-être s'adresse-t-il simplement à la télévision, où il déclare que la télévision intéresse de moins en moins les jeunes dans la tranche d'âge de 16 à 24 ans.
Alors, il y a tout à fait un changement extrêmement radical qu'on est en train d'observer avec les nouvelles générations. Vous savez que nous, on est, il y a une belle expression, on est des digital migrants, on est des émigrants de l'ère digitale. Eux, ce sont des natifs de cette ère. Les gens qui sont nés maintenant il y a 10 ou 15 ans. Donc, ils ont vraiment commencé leur vie avec toutes ces possibilités à leur portée, et c'est clair que leur comportement s'en trouve modifié. Le plus spectaculaire étant dans la télévision, où vraiment on voit que les gens ne regardent plus la télévision. Mais à part ça, la télévision aux États-Unis, donc on sait souvent des chiffres américains qu'on a, etc. Mais aux États-Unis, c'est normal que les gens ne regardent plus la télévision. C'est plus possible de regarder la télévision aux États-Unis. Entre un média où moi je choisis quand les choses se passent et où je peux aller vers le contenu qui m'intéresse, et un média où toutes les 7 minutes il y a une coupure, etc. C'est normal que les gens fassent ces choix-là. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, c'est des changements qui sont dus à deux choses. Il y a vraiment un changement comportemental, mais il y a aussi des anciens médias qui fonctionnent d'une façon qui est plus vraiment utile pour tout le monde et qui eux vont devoir se remettre en question. Mais je pense qu'il y aura toujours une place pour eux. C'est très important d'avoir des médias qui soient capables de relayer un message aux masses, quoi. Donc pour les infos nationales, je pense qu'il y aura toujours une grande radio pour ça, tout simplement. Ça sera jamais fait par podcast.
Et le sujet que Bruno Vessière citait tout à l'heure, par exemple, sur cette mise à disposition énorme d'informations, il me semble que vous avez aussi imaginé un système où les banques, maintenant, se transformeraient aussi, je ne sais pas si vous parliez des établissements financiers, se transformeraient entre
la banque
de données. Vous pensez de la banque de données qui serait conservée.
De la banque privée à la banque de données.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Est-ce que la banque de données va acquérir une importance aussi grande que celle des établissements financiers dans notre vie?
Je pense que oui. Et j'en avais parlé en effet sur mon site, parce que je pense que c'est un des messages qui est important de faire passer par ici. C'est un peu une anecdotique, mais il y a quelqu'un qui était venu me voir en me disant que son voisin avait sa maison qui avait brûlé, et sa famille était saine et sauve, etc. Et la maison allait être reconstruite par l'assurance, bon, c'était pas un problème. Et le drame pour lui, c'était d'avoir perdu les vidéos, exactement, de la naissance de ses enfants, dont il n'avait pas de backup. C'était d'avoir perdu ses documents. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a un patrimoine qui apparaît, et qu'il y a un patrimoine digital. Je parlais aussi, quand je pense à ce sujet, je parle aussi du monsieur il s'appelle Christian Lindholm, c'est un Finlandais qui travaille chez Nokia et qui a travaillé pendant longtemps sur ses téléphones, les N-Series, ceux qui font en fait des vidéos, des photos, etc. Et lui, donc, avant tout le monde, il a commencé à vivre avec un appareil qui pouvait générer du contenu multimédia vraiment de haute qualité, parce qu'il le testait avant de le commercialiser. Et lui disait, je me suis rendu compte que vraiment, avec cet appareil, je crée une espèce de mémoire de ma vie, et que ça devenait le truc le plus important que j'avais après ma santé, après mon argent qui est déjà bien sécurisé, il n'y a pas de souci. Et donc je pense qu'il y a un vrai marché, il y a une vraie opportunité d'offrir un service qui permette à tout un chacun de gérer ses données. Et alors ensuite, qui peut répondre à ces besoins? Est-ce que c'est une petite start-up? Je pense pas, parce qu'on préfère, enfin c'est comme son argent. Pourquoi les start-up? Il n'y a pas de banque start-up vraiment, parce qu'on veut une certaine sécurité, stabilité, vision à long terme qu'une start-up peut pas offrir. Est-ce que ça sera un service public? Je pense pas, parce qu'on a pas mal de données privées, on n'a pas forcément envie d'aller stocker.
On verra le communautarisme aussi. Les musulmans voudront être gérés par une banque musulmane.
C'est possible, mais en tout cas, je pense que ça sera. Les banques ont vraiment une grosse opportunité là-dessus d'offrir un espèce de coffre-fort virtuel. Alors, la réponse qu'on reçoit quand on parle de ça, c'est que c'est quelque chose de trop personnel, probablement, pour que ça puisse arriver demain, que les gens ne sont pas prêts à utiliser la technologie pour quelque chose d'aussi personnel. Je pense que c'est faux. À mon avis, la technologie permet de plus en plus ce genre de relation un peu intime ou un peu privée. Un des exemples qu'on avait trouvé, dont je voulais parler à Lyft, et malheureusement on n'a pas pu arranger ça, mais c'était les HUG qui font ce programme contre la boulimie qui passe par Internet. Donc ils ont un site où les malades qui sont des gens qui ont un peu honte, en général, c'est une maladie, enfin on n'aime pas trop supporter le regard des autres, etc. Ils peuvent aller sur un site et rentrer en contact avec un médecin via les nouvelles technologies, en fait. Et donc, je me disais, si les gens, maintenant, c'est prouvé, ça fonctionne, qu'ils sont prêts à confier un peu une partie de leur santé aux nouvelles technologies, ils seront d'accord de confier une partie de leur patrimoine, de
surtout
leur données.
Surtout que la privacy n'est pas forcément dirty, puisque vous avez beaucoup de termes anglophones. À la mesure où vous le disiez au début, les gens sont fanatiques aussi d'exposer leurs vidéos, de les faire circuler. Ils sont des millions et des millions aux États-Unis.
Oui, je pense que c'est parce qu'ils ne comprennent pas encore le vrai impact. Ça aussi, c'est un sujet que je trouve assez passionnant. C'est vrai que qu'est-ce qui va se passer dans 4-5 ans quand la génération des MySpacers vont tous arriver au travail. Donc, si moi, par exemple, j'ai fait attention à ma vie privée et que je passe un entretien dans une grande boîte et que, inévitablement, la personne qui me fait passer l'entretien sera allée chercher mon nom dans MySpace, s'il trouve quelque chose...
Mais déjà, dans Google, c'est ce qu'on fait.
Ouais, voilà.
Chaque fois que je vois quelqu'un que je connais pas, dans Google, je vois X références, Laurent Hogue.
Exactement. Et ça, c'est une chose. Donc, vous pouvez un peu vous faire une opinion. Alors, il y a tous les problèmes de contrôle de l'identité. C'est que maintenant, on ne contrôle plus son identité, puisque sur Google, rien ne vous garantit d'être premier.
C'est fantastique. J'avais rendez-vous comme ça avec des professeurs d'université. J'ai découvert qu'ils avaient été séminaristes à Fribourg dans des séminaires intégristes avant. Enfin, des choses passionnantes. Non, mais c'est pas secret.
Exactement. Mais c'est extrêmement préoccupant quelque part. Mais en même temps, c'est une opportunité. Un peu pour la libre parole, etc. Mais c'est vrai qu'on est tous à égalité vis-à-vis de ça, et c'est le site le plus pertinent qui sort en premier selon les règles de Google. Mais il y a un autre problème, c'est qu'est-ce qui va se passer si vous tapez mon nom dans Google et que vous trouvez rien? Est-ce que là vous allez vous dire que je suis quelqu'un d'asocial, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est vraiment des questions liées à la vie privée qui vont se poser dans les 4-5 ans. On va vous dire, mais pourquoi, alors que tous les ados avaient un site MySpace, vous n'en aviez pas? Qu'est-ce que vous avez à cacher, voyez? Vous avez été effacé ces données. Donc c'est vrai que ça ouvre tout un tas de portes, et je pense que la vie privée, c'est un des gros challenges qui y aura. On en avait parlé à Lyft l'année dernière avec Emmanuel Richard, qui est une journaliste et qui fait maintenant des études, qui veut devenir détective privé, et qui nous parlait un peu de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses extrêmement préoccupantes qui se passent par rapport au, par exemple, un salarié qui est espionné via ses recherches Google. Si quelqu'un, elle donnait l'exemple de quelqu'un qui avait cherché cancer sur Google, son père l'avait vu et il a été licencié et il s'est rendu compte qu'il avait le cancer. Il y a vraiment de gros problèmes. C'est un peu à chacun de s'éduquer par rapport à ça. Il y a des règles extrêmement simples.
Mais il y a des règles aussi, puisque nous parlions tout à l'heure avec un soulage stable de cette partie du travail, donc qui va être possible chez soi. Dans quelle mesure aussi, je crois que vous avez abordé le problème l'année dernière. Bien sûr, on peut tout savoir, mais en dehors de ça, on peut aussi être, je dirais pas poursuivi, mais vous emmenez également tout votre matériel, puisque personne ne supporte de ne pas recevoir une réponse à un email. Vous partez en vacances, vous devez avoir votre matériel sur la plage. L'employeur vous tient à distance aussi.
Ouais, et ça, je crois que c'est une question d'éducation que tout un chacun doit faire.
Le mot est trop faible.
Je pense que ça va venir, en fait. Il y a une question de... Pour moi, j'utilise l'analogie du téléphone portable. C'est vrai que quand j'ai eu mon premier téléphone portable, je le regardais avec une certaine fascination en attendant qu'il sonne. Et puis petit à petit, c'est un objet qui s'est un peu banalisé dans ma vie et qui a eu... que j'ai commencé à éteindre la nuit parce que j'estime que je vais pouvoir vivre sans qu'on m'appelle la nuit, etc. Moi-même, j'ai dû faire un travail et remettre cet outil à sa place. Et je pense qu'on est tous un peu pareil. On reçoit ces nouveaux outils, et en ce moment, on en reçoit 20 par jour, et on est un peu trop enthousiaste, on les surutilise, on leur donne une importance trop grande, et ensuite, on les remet à leur place, mais c'est un processus qui prend assez longtemps. Maintenant, le thème de Lift 07, la conférence de l'année prochaine, sera... disconnect, se déconnecter, parce que pour moi c'est extrêmement important.
Si vous partez en vacances, si vous partez en vacances et que votre patron, comme je l'ai déjà entendu dire, voulait absolument pouvoir joindre sa secrétaire pour savoir où était un dossier.
On peut rappeler téléphone. Son portable, son mail, on n'est pas obligé de l'avoir à permanence.
Voilà,
c'est quand même lié.
En général,
plus vous êtes connecté pendant 15
jours. Oui, mais c'est
jours.
Aussi un peu une partie d'ego, c'est les gens qui se disent, voilà, sans moi, il va rien se passer. On n'est jamais obligé de prendre un téléphone. Si ensuite vous rentrez et que vous dites au patron que vous étiez au bord de la piscine, vous aviez laissé le téléphone, je pense pas que les réprimandes vont être trop graves. Donc, c'est aussi un peu à chacun de s'éduquer et à chacun d'éduquer les autres, mais je pense vraiment que c'est un des grands problèmes qu'il y aura aussi dans l'avenir, ce sera de remettre les technologies à leur place. À côté du phénomène de la constante connexion, il y a aussi, à mon avis, un impact vraiment sur la façon dont on est en tant que personne. Ce côté être interrompu toutes les 10 secondes par des emails, du chat, etc., ça permet pas d'être productif, par exemple. Moi, je me rends compte, il y a beaucoup de gens, je lisais un article sur une boîte au Japon qui envoie maintenant ses cadres systématiquement en train, qui est un des derniers endroits un peu où il n'y a pas Internet. Ils les envoient en train dans un espèce de refuge de montagne et ils reviennent le soir. C'est les jours où on a besoin que ces gens-là aient des idées. On les emmène, on les met dans un environnement où il n'y a plus d'interruption technologique pour qu'ils redeviennent créatifs. Donc finalement, la technologie, c'est quelque chose qui a un vrai impact sur nous et qui nous ouvre certaines portes, mais qui nous en ferme d'autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit un peu réapprendre. Pour l'instant, on est complètement bombardé. Il y a quand même eu, en 5 ans, plus de changements que j'ai pas vécu les autres époques, mais que beaucoup, beaucoup d'autres époques, à mon avis. Et maintenant, il faut juste qu'on se rétablisse. Et c'est une des choses. Il faut qu'on mature un petit peu par rapport aux technologies.
Laurent Roque, vous avez à peu près 30 ans et vous nous disiez tout à l'heure...
6 ans. Il a dit qu'il avait 6 ans.
Et que vous étiez déjà un vieux dans ce domaine. Est-ce que vous sentez véritablement cette rupture technologique? Et comment imaginez-vous à ce moment-là la rupture qu'il peut y avoir avec l'utilisateur moyen?
Je pense que il y a un vrai, comme je vous disais tout à l'heure, moi, on est tous un peu les gens autour de cette table des migrants et on n'est pas nés dedans, donc c'est vrai qu'on a des réflexes qui sont un petit peu différents. Et il y a des, par exemple, les ados n'utilisent plus l'email. Voilà, c'est fini l'email.
Oui, le SMS a triomphé.
C'est le instant messaging, c'est le chat, etc. Bon.
Par
ordinateur. Et puis maintenant, Swisscom a sorti, on a le droit de dire des marques?
Oui,
c'est bon. Swisscom a sorti un petit appareil qui est toujours connecté au réseau GSM.
Quelqu'un dit du bien de Swisscom.
qui est connecté au réseau GSM et qui vous permet de chatter en direct via un fournisseur, un certain logiciel, etc. Donc, maintenant, il y a les téléphones qui vont arriver aussi, qui se connecteront au Wi-Fi, etc. Donc, de plus en plus, on va arriver vers ce côté ultra connecté. Et les ados utilisent ça. Quand ils veulent écrire à leur grand-mère, ils font un email. Moi, quand je voulais écrire à ma grand-mère, je faisais une carte postale. Voilà, c'est ça la différence. Et cette génération apporte énormément de changements. Si YouTube et MySpace sont maintenant les rois du web, c'est à cause de la génération ou grâce à la génération des 15-25.
Et vous citez, vous aviez parlé, enfin aussi l'an passé, mais je pense que ça sera aussi cette année, avec ce problème, non pas ce problème, cette avancée, vous en parliez avec Xavier Comtesse, de la suppression de tous les niveaux de la majeure partie des niveaux entre l'entreprise et le consommateur. Vous avez parlé d'IKEA, d'EasyJet, etc., où à ce moment-là, il y a pratiquement une interactivité entre la production et le consommateur.
Oui, tout à fait. C'est donc ce que Xavier Comtesse appelle l'économie directe. Et c'est vrai que il y a tout un tas d'intermédiaires qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui sont en train de disparaître. Et je pense que c'est une bonne chose. ça remet en cause certains processus, certains business models, etc. Mais c'est quand même intéressant de voir que de plus en plus, on paye pas pour des choses qui servent à rien. Donc typiquement, pourquoi est-ce que je vais payer des frais supplémentaires à un label de musique qui va prendre sa com, alors que moi je peux moi-même aller découvrir les artistes maintenant? Il y a tout un tas de plus en plus les producteurs et les consommateurs se retrouvent liés directement et via l'outil qui est Google, quoi. Maintenant tout le monde, comme je vous disais, une des grandes expressions à la mode, c'est le monde est plat. C'est vrai que le monde est maintenant est plat, tout le monde est à égalité, tout le monde peut vendre, tout le monde peut sortir du lot, et c'est plus du tout comme avant où je pouvais le faire parce que j'ai toujours été là et que j'ai un monopole, etc.
Vous êtes en train de dire qu'il est absolument impossible pour un talent de rester et de passer inaperçu.
Je l'espère. C'est en tout cas, la situation s'améliore. C'est pour ça que, à mon avis, ça a apporté quand même d'assez bonnes choses.
Alors à quoi ça sert de gagner de l'argent ?
À quoi ça sert de gagner de l'argent ?
Dans un monde plat.
Dans un monde plat, ça, ce que ça a toujours été, quoi.
Vital,
oui, il faut un minimum vital.
C'est l'idéal.
Je pense pas que ça change, ça. C'est juste qu'il y a l'allocation se fait plus pareil. Avant, l'argent allait vers, on était obligé, quand on voulait écouter de la musique, de passer par 4 ou 5 grosses entreprises qui faisaient le filtre. Maintenant, il y a toujours autant d'argent.
Tétat de gens disaient, j'adore les choses chères. C'était la motivation des gens qui voulaient gagner de l'argent. Un peu comme celui qui va acheter une Porsche aujourd'hui pour rouler à 80 km/h, de toute façon.
Mais ça reste. Je pense qu'il y a toujours autant d'argent qui est dépensé, etc. Mais c'est plus vraiment vers les mêmes, les mêmes canaux, les mêmes personnes.
Donc, pour suivre Bruno Vessière, la Porsche inutile, il garde sa vieille mobilette.
Oui.
Mais il est plutôt important de moderniser son parc technologique. Quel sera, alors vous nous en aviez, nous arrivons bientôt à la fin, Laurent Aube, puisque nous allons parler tout à l'heure avec Sabrina Moser. Parlez-nous du thème, justement, vous avez parlé de se déconnecter, ce sera le thème de Lift l'année prochaine, qui sera vers le mois de janvier-février.
Au mois de février, voilà, les 8 et 9 février, donc on va faire à Genève, au CICG. Vous aurez plus d'informations sur le site de la conférence, qui est donc liftconférence.com. Et en gros, on va faire un concept sur 3 jours cette année. Donc le mercredi, on va faire un jour un peu auto-organisé. Nous, on va mettre à la disposition des gens qui viennent à Lift des salles. On va fixer un nombre de règles et n'importe qui pourra faire animer un atelier. Le jeudi, ça va être une journée consacrée aux nouvelles idées. Donc nous, on a sélectionné une vingtaine ou une trentaine de nouvelles idées dont on va parler. Là, il y a des choses extrêmement diverses. On va parler des robots, on va parler de fair trade, on va parler de le commerce équitable, excusez-moi pour l'anglicisme, on va parler d'architecture interactive, on va parler des minorités dans la technologie. On a invité cet entrepreneur danois qui maintenant habite à Genève, qui a inventé cette herbe qui change de couleur quand elle pousse sur des mines antipersonnelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une des plus belles idées que j'ai vues. C'est donc ils ont modifié une herbe et une mine, quand elle rouille, je crois, elle dégage du CO2. Et en fait, cette herbe, au contact du CO2, change de couleur. Donc vous semez ça sur un champ de mine et là où les fleurs deviennent oranges, c'est qu'il y a une mine antipersonnelle.
On avait déjà fait l'archéologie aérienne avec les villas romaines comme ça. Ça marchait très bien, hein.
Là,
l'herbe n'a pas la même couleur vu d'avion.
Exactement, voilà. Ben, c'est ce genre de concept. Donc on va parler vraiment d'idées extrêmement variées, de nouveau, en essayant d'avoir ce thème assez large de l'impact des technologies sur notre société. Et le vendredi, on va plus se concentrer sur la déconnexion, sur des grands... On va essayer d'avoir des gens pour parler un peu de l'avenir, des technologies, etc.
Plus d'université.
Il y a toujours eu des universités, il y en aura encore à Lift cette année. Ouais.
Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, après avoir tenté, enfin pour tout le monde, essayé de se connecter, une des préoccupations sera aussi d'apprendre maintenant à se déconnecter.
Voilà, on va forcer les gens à aller skier le week-end après Lift sans leur ordinateur.
Pourtant, il leur faudra leur GPS.
Non, vous inquiétez pas, c'est prévu.
Merci Laurent.
Je vous en prie.